En effet, nous continuerons à prier, puis nous sommes quand même dans la joie de savoir pour deux personnes précises que nous allons prier, qui sont là ce matin avec nous. On est content de les avoir parmi nous, le Seigneur est bon. Et justement, bon, il est bon notamment de se souvenir, de remémorer, de célébrer les étapes de nos vies. Et il est bon de se réjouir pour les fêtes, les occasions de fêtes, comme celles que nous avons vécues, que nous venons de mentionner, les 50 ans de mariage d'Annick et Pierre et celles de Josette et Jean-Pierre. Ou, pour ceux qui étaient présents, beaucoup de souvenirs ont été rappelés. Alors il faut le dire, hein, à nos yeux, c'est un exploit quand même, 50 ans, bravo. Et une vraie occasion de nous réjouir avec vous et puis avec la famille présente. Et cela, quelque part, donne presque le tournis de penser à tout ce que vous avez vu dans votre vie, à toutes les expériences que vous avez faites, à toutes les choses que vous avez accomplies durant ce temps. Il y a eu beaucoup de moments joyeux, nous l'avons entendu, mais aussi des temps de souffrance, nous le savons, et des difficultés à surmonter. Et au travers de tout cela, de vos vies, de vos souvenirs, de ces anniversaires de noces d'or, vous nous avez parlé de Dieu, de votre Dieu, et de la place qu'il a prise dans votre vie, de votre service à lui, mais aussi et surtout, cela nous a parlé de ce que Dieu a fait pour vous, de sa fidélité, de ses bienfaits envers vous au travers de ces années. Aussi, j'aimerais vous proposer ce matin de regarder comment la Bible exprime notamment cette notion de fidélité, cette notion de bienfait, sous un angle particulier, celui du psaume 103. C'est un psaume assez connu, nous l'avons déjà cité ce matin, lors du pardon, et on pourrait presque l'appeler le psaume du souvenir. Car ce psaume nous invite, à chacun de nous, à produire un travail d'introspection sur nous-mêmes, à faire comme un bilan, à accueillir un peu de lucidité sur nous-mêmes, tout comme il nous invite à renouveler notre contemplation de Dieu, qui est source de tout bien et de toute vie. Ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Aussi, je vous invite à la prière avant de commencer ce temps. Nous prions. Seigneur, au moment d'entendre ton message, nous te demandons ton esprit, afin que ces phrases prennent sens dans nos cœurs, qu'elles suscitent en nous soif de la rencontre avec toi, qu'elles prennent chair dans nos vies de tous les jours, sachant que tu es ce Dieu fidèle, que tu es ce Dieu de tous les bienfaits, ce Dieu présent avec nous en toutes circonstances. Amen. Alors je vous invite maintenant à écouter ce psaume 103. J'invite nos deux lectrices à venir ici devant pour nous le lire.
Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint. Tout mon être, bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il comble des biens tes vieux jours. Tu renouvelles comme l'aigle ta jeunesse.
Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint.
Il sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'air, comme la fleur des champs. Il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus même la place où il était l'ignore. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés.
Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le. Invincible porteur de ses ordres, attentif au son de sa parole. Bénissez-le, armée du Seigneur, serviteur qui exécutait ses désirs. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le sur toute l'étendue de son empire. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
Merci pour cette lecture. Alors, comme je l'ai dit, ce psaume est un appel à se souvenir. Un auteur a dit, quand on se regarde plus dans ses souvenirs que dans son miroir, c'est qu'on se fait bien vieux. Vous avez capté ? Quand on se regarde plus dans ses souvenirs que dans son miroir, c'est qu'on se fait bien vieux. Ce souvenir, on pourrait dire que c'est le propre de la vieillesse, mais pas tout à fait. Parce que quand on y réfléchit un peu, on arrive à la conclusion qu'on peut facilement classer le souvenir parmi les grands temps de notre vie. Et cela, à tout moment de notre vie. Hein, j'ai ma fille de 13 ans qui me dit « Ah, je me souviens quand ?» Elle a 13 ans, c'est à tout moment de notre vie. Car c'est vrai, nous vivons en permanence dans le souvenir de quelque chose. C'est une façon de se regarder, d'analyser ce que l'on vit. On mesure constamment notre présent à la lumière de cet univers très personnel que sont nos souvenirs. Le souvenir est une dynamique de nos vies qui peut venir à un moment ou à un autre mobiliser même toute notre énergie, prendre tout notre temps. Il peut être soit quelque chose de négatif, une parole blessante, un événement traumatisant, un amour déçu, une occasion manquée, ou quelque chose de positif, un vrai amour, des événements merveilleux, un voyage extraordinaire, une parole dite à propos. Et on peut aussi malheureusement passer des années à rester bloqué sans pouvoir avancer à cause d'un souvenir précis. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, la Bible a effectivement quelque chose à dire au sujet de cette dynamique toute particulière de notre vie. Et son message est même riche et étonnant. Et ce psaume, en particulier, est une base riche pour réfléchir sur la place du souvenir et la façon dont on peut le vivre dans le cadre de notre foi. Certes, ce psaume est connu notamment parce qu'il nous parle si admirablement bien de Dieu et de son pardon. Mais on oublie qu'il y a un début qui donne à tout ce qui est dit ici une orientation bien précise. C'est le « que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Saint-Dieu, que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. » Une autre version dit, comme nous l'avons lu, « bénis l'Éternel, ô mon âme, où je remercie le Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. » Sans oublier aucun de ses bienfaits. La façon dont c'est traduit ici, et on pourrait dire relativement heureux, le terme « sans » permet de comprendre qu'il y a une relation entre le fait de ne pas oublier et les bienfaits. Mais malheureusement, on a un peu du mal à rendre cela en français, tout le sens que cette phrase prend en hébreu. Parce qu'en fait, en hébreu, on exprime l'idée qu'il y a une relation entre le fait carrément de louer et de se souvenir. Car on ne peut louer le Seigneur, Dieu, avec tout son cœur, que quand on n'oublie aucun de ses bienfaits. Le lien est là, louer Dieu pour ses bienfaits, à cause de ses bienfaits. Et quels sont-ils, ces bienfaits ? Bien, le reste du psaume n'est qu'une énumération non complète de tous les bienfaits de Dieu. Vous voyez, un des secrets de la vie spirituelle avec Dieu a à faire, oui, avec le souvenir. La meilleure façon d'honorer Dieu, de le louer, de le remercier, est de ne pas oublier, de se souvenir de ce que Dieu a fait et fait pour nous, de ne pas négliger sa fidélité envers nous, son peuple. C'est d'ailleurs ce beau chant que j'aime tellement chanter, « Compte les bienfaits de Dieu ». Compte les bienfaits de Dieu. Un appel à ne pas oublier. Car malheureusement, un des problèmes de notre vie est effectivement que nous oublions trop souvent ce que Dieu a fait pour nous. Nous oublions de compter les bienfaits, de se souvenir ce qu'il a fait pour nous. Nous calculons plutôt ce qu'il n'a pas fait. Et dans la Bible, ce souvenir est quelque chose de bien plus profond et transformant que de simplement se rappeler de quelque chose dans sa tête. Vous voyez, c'est un enjeu majeur dans nos vies spirituelles. Mais vous vous dites, mais pourquoi ce souvenir alors? Pourquoi est-ce qu'un psaume si beau, si fort, serait dédié à cette question du souvenir? En quoi ce souvenir, ou ne pas oublier, est-ce important selon Dieu? Et pourquoi est-ce si difficile des fois? Si vous sortez une concordance, un dictionnaire de tous les mots utilisés dans la Bible, vous allez être étonné de voir le nombre de références qui parlent du souvenir ou du fait de ne pas oublier. Alors je vous en donne, vous avez de la chance ce matin, je vous donne que deux exemples. Ésaïe 51, verset 13, qui dit ceci, « Comment donc peux-tu craindre l'homme qui doit mourir ou un humain qui a même le sort que l'herbe? As-tu donc oublié l'Éternel qui t'a fait, qui a tendu le ciel et a fondé la terre? » En d'autres termes, si tu as peur de quelqu'un, tu es en train de m'oublier, dit le Seigneur ici. Ou par exemple en 2 Pierre 1, les versets 8 à 11, Pierre est en train de parler de la vie spirituelle en parlant des fruits de l'Esprit et il dit « Elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. » Autrement dit, si l'on manque de persévérance, de fidélité, de compassion, tout ce qui est bon pour notre vie, c'est peut-être que nous avons un problème avec le souvenir, que nous oublions toute l'œuvre de Christ pour nous. Et si on prend le temps de regarder tous les exemples de la Bible, on ne peut que faire la synthèse suivante et résumer de façon là cette façon la, que la, ce que la Bible pardon et résumer la façon qu'a la Bible de voir le souvenir comme ceci. Dans la Bible, le souvenir est un des moyens que nous avons pour parler à notre être intérieur, pour aboutir à un plus grand contrôle de nous-mêmes. Voyez, ce souvenir s'est posé au centre de notre vie consciente, quelque chose qui a le pouvoir de contrôler ce que l'on pense et ultimement de contrôler notre façon d'agir. Je m'explique. Combien de fois vous vous êtes dit « Ah, je ferai plus jamais cela !» Sur le moment, on y pense. On n'oublie pas. Mais par la suite, on a tendance à oublier, n'est-ce pas? Et dans quelques jours, voire quelques semaines, eh bien, on fait exactement la même chose. Pourtant, cette chose nous contrôlait. Elle nous menait quelque part par le bout du nez. Et aujourd'hui, de toute évidence, elle nous contrôle encore et en plus sans qu'on réagisse. Vous avez oublié la chose qui vous embêtait. Pire, vous avez oublié qu'il y avait une bonne raison pourquoi cette chose vous embêtait et pourquoi vous vouliez qu'elle ne vous embête plus. Et d'ailleurs, il n'y a rien de plus embarrassant, surtout pour des parents, et je pense aussi des grands-parents, qu'on vous repasse la liste des choses que vous avez dites que vous ne feriez plus et que vous faites pourtant encore. Des promesses faites, des choses que vous avez jurées qu'elles étaient très importantes et que vous n'avez toujours pas réglées encore aujourd'hui. Encore et encore, la Bible nous dit que nous sommes comme cela. C'est dans notre nature humaine. Nous sommes pleins de bonnes intentions. Mais il y a quelque chose en nous qui fait que nous oublions en permanence. Mais en même temps, il faut le dire, nous avons aussi une mémoire sélective. Peut-être que vous avez en mémoire les paroles de quelqu'un vous a dites et qui vous ont blessé. Ou un événement traumatisant que vous n'arrivez pas à oublier, justement. Et que les autres, eux, ont déjà oublié. Il y a plein de choses dans la vie qu'on n'arrive pas à oublier. On aimerait bien les oublier. Et les problèmes, c'est qu'on n'y arrive pas. Or, tout cela fait partie de la même réalité. Ce que nous, on oublie, mais on ne devrait pas. Ce qu'on n'arrive pas à oublier, mais qu'on devrait. Et la Bible nous apprend que c'est le résultat du péché dans nos vies. Car un des effets du péché est que notre mémoire, eh oui, est troublée et confondue. C'est paradoxal, mais les choses, les paroles, les règles qui devraient nous garder dans le droit chemin, on les oublie bien trop vite, trop souvent. La bonté, l'amour, la persévérance s'effacent souvent une fois qu'on fait l'expérience. Par contre, les choses cruelles, moches, méchantes, là on s'en souvient presque, on pourrait dire en technicolore. La phrase méchante pèse plus que 100 compliments qu'on vous aura fait. Un air de dégoût de quelqu'un envers vous vous affectera bien plus que 10 sourires de petits enfants. Voilà, cela pèse sur notre conscience en permanence. Tout cela est l'effet d'un dérèglement profond en nous-mêmes. Et pourquoi sommes-nous comme cela dans le fond? Eh bien, nous le savons parce qu'il y a un problème spirituel qui est à l'origine de pratiquement tous les péchés dans nos vies. Si quelque chose ne va pas avec notre mémoire de ce que Dieu a fait pour nous, c'est que dans le fond, on a un problème avec Dieu et ce qu'il nous demande. Oui, on a une mémoire défaillante par rapport à lui. Pourquoi d'ailleurs est-ce que le Seigneur n'arrête pas d'inviter son peuple à se souvenir? Comme en Deutéronome 8, tu te souviendras de ce que l'Éternel a fait. Ou un peu plus loin, garde-toi d'oublier. Pourquoi? Parce que Dieu sait très bien que nos cœurs ne veulent pas se souvenir. C'est profond en nous. Nous voulons oublier que Dieu existe quelque part, surtout oublier ses commandements, ses exhortations, et faire qu'à notre guise. Ça rappelle cette petite publicité, à ma guise, il y a quelques mois, je pense déjà. Et pourtant, ce qui est paradoxal, encore une fois, c'est ce que nous avons besoin, de nous rassurer qu'un Dieu existe, qu'il nous prend en compte, et surtout qu'il nous aime. Malheureusement, oui, nous avons des cœurs qui oublient quand il s'agit de se souvenir des choses que Dieu a faites pour nous. Ça glisse, ça s'en va, ça ne s'attache pas. Et nous avons des cœurs, on pourrait dire des cols fortes, quand il s'agit de toutes ces mauvaises choses qu'on nous a dit, ou que la vie nous a apportées, ou des choses qu'on a demandées à Dieu, mais auxquelles il ne semble pas avoir répondu. Ça nous colle, on s'en débarrasse pas, on n'oublie pas. Or Dieu nous appelle à nous souvenir, mais nous souvenir de quoi? Qu'est-ce qu'il faut absolument que nos cœurs se souviennent? Quelle réponse nous apporte ce texte? C'est déjà dès le verset 1 que tout mon être le loue, bénit l'Éternel, ô mon âme. Regardez à qui est adressé ce psaume. En fait, le psaume est adressé à lui-même, à l'auteur, David. Il est en train de parler à son âme, au profond de son être. Ce n'est pas un psaume en relation avec un ou des événements particuliers, mais un psaume qui se situe sur un autre plan. Car David ne s'arrête pas au constat qu'il est oublié de qui Dieu est. Il veut aller plus loin et il va plus loin. Il appelle son âme à faire quelque chose, à ne pas oublier justement. Et quelle solution propose-t-il à son âme pour ne pas oublier? Eh bien, une méditation, on pourrait dire même vigoureuse, une contemplation profonde de ce que Dieu a fait. Voyez, ce psaume n'est pas une petite prière, pas non plus une liste raisonnée dans le but d'expliquer ou de définir qui est Dieu. David est en train de se dire les vérités sur Dieu jusqu'à ce qu'elles pénètrent dans son cœur, jusqu'à ce qu'il devienne sûr de la présence de Dieu et de tous ses bienfaits, que cela pénètre son âme. Et méditer, contempler, c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours faire, qu'on n'a pas l'habitude de faire peut-être, qu'on n'a pas le temps, ou on est trop pressé à le faire. Ou alors nous avons perdu de vue ce que c'est d'être profond, de méditer, de prendre le temps à part avec Dieu. Mais tout le but de la contemplation, de cette méditation, de s'attendre à Dieu et d'amener la réalité de Dieu vers le centre de nos êtres pour qu'elle nous touche profondément. Elle peut prendre la forme d'une lecture continue et personnelle de la Bible ou sous forme de prière ou d'un engagement dans un groupe partage, un groupe de maison que j'espère commencera l'année prochaine pour vous. Le but est de demeurer. Le but est de prendre le temps, voire de prendre racine, de méditer sur qui est Dieu et de ses bienfaits envers nous. Les religions orientales, elles présentent la méditation comme la fin de la rationalité, comme la solution pour s'échapper de la réalité. Mais la méditation que propose la Bible n'est pas anti-rationnelle et elle s'ancre dans la réalité. Dieu raisonne sur Dieu ici. Il y a une part d'argumentation durant laquelle il s'adresse à son cœur pour qu'il se mette à écouter Dieu et qu'il se rappelle qui il est réellement. Il est en train de se poser la question de l'état de son cœur, de l'état de son âme, une analyse sur soi-même, pour que son cœur, tout son être s'ouvre à l'œuvre de Dieu en lui, que Dieu par son esprit vienne travailler son cœur. Quand je médite la parole de Dieu, quand je médite qui est Dieu, ses bienfaits envers moi, je m'ouvre à l'action de Dieu, à ce que l'Esprit de Dieu vienne en moi et fasse son œuvre dans ma structure interne, dans mon âme, dans le profond de mon âme, que je sois imprégné de Dieu, de tous ses bienfaits, que je le sois imprégné pour que je le vive au quotidien. Voyez, c'est là la dynamique de l'homme nouveau. Mais alors, quelles sont ces choses dont on doit se souvenir absolument? Quelles sont ces choses qu'il faut savoir dire à notre cœur dans ce temps de méditation? Le texte ne dit pas que Dieu demande que l'on énumère la liste des choses qu'il est, même si cela peut aider absolument. Il dit ici, n'oublie aucun de ses bienfaits. La chose dont on a besoin, c'est de se rappeler de ce Dieu, qu'il est un Dieu de bienfaits, qu'il est un Dieu fidèle, qu'il est un Dieu bon, et que la bonne nouvelle que son Fils nous apporte est le bienfait le plus extraordinaire. D'ailleurs, la définition que donne ce texte sur l'œuvre du Christ est quand même remarquable. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas en rigueur sans cesse, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Ce que David dit par cette dernière image de l'Orient et de l'Occident, c'est tout simplement qu'à cause de Dieu, nos péchés sont derrière nous. Et tout le message de l'Évangile est ici. Dieu, lui, ne nous oublie pas. Jésus-Christ, lui, a été oublié, abandonné sur la croix avec nos péchés pour que Dieu se souvienne de nous. Éternel, ton amour durera toujours. Ce Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu fidèle. Il se souvient de nous en Jésus-Christ. Et ça, c'est un des bienfaits auxquels il faut que nous nous accrochions, qui remplissent nos cœurs. Alors, comment faire? Je finis avec une note pratique. On peut aussi comprendre ce psaume comme une liste de sujets potentiels à aborder dans notre effort de méditation personnelle, car effectivement, il couvre ici tout un ensemble de notions tirées de l'expérience humaine. Il y a « Dieu pardonne les péchés ». Cela pose la question de nous et de notre culpabilité. Nous pouvons prendre le temps et de méditer dessus. Nous pouvons méditer sur cette autre phrase aussi. « Il guérit toutes les maladies ». Cela parle d'espoir. de libération, d'espérance. Il nous arrache de la tombe. Cela parle d'un Dieu qui est là, qui nous arrache justement de la peur de la mort, ou la peur de la souffrance, ou la peur des épreuves. Il couronne de tendresse, de bienveillance, d'amour. C'est lui, Dieu, qui nous comble de bonheur tout au long de notre existence. Un peu plus loin, il dit, il nous renouvelle, il nous fait rajeunir. Voyez, c'est lui, notre source de vie, de force, d'énergie. Cela vaut la peine de méditer en lui pour retrouver ses forces, cette ressource. Il est lent à la colère, il nous rend pas selon nos fautes. C'est un Dieu qui pardonne et qui relève. La tendresse, l'amour de Dieu pour nous. Tout à travers ce psaume, nous sommes rappelés de l'amour de Dieu pour nous. Là aussi, nous pouvons le méditer longuement et nous approprier cela en nous. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Voyez, c'est lui, le Dieu tout-puissant. Il gère. Il sait ce qu'il fait. Il est sur son trône. Il est souverain. Nous pouvons nous reposer en lui. Voyez, la liste pourrait continuer à travers ce psaume. Une longue liste contemplée qui est Dieu et ses bienfaits. Chacun de ces sujets est à investir et à vivre dans un face-à-face avec Dieu pour pouvoir justement le vivre dans son quotidien. Vous voyez, si votre mémoire est centrée sur les bonnes choses, vous serez une personne heureuse. Si votre mémoire est centrée sur les choses mauvaises qu'on vous a faites ou dites, vous serez rempli d'amertume. Et la solution est là. Elle est de louer le Seigneur pour qui il est, pour tous ses bienfaits. Alors Pierre et Annick, Josette et Jean-Pierre, continuez comme vous l'avez fait hier à énumérer vos souvenirs et tout ce que Dieu a fait pour vous dans vos vies. Continuez à faire la fête pour ce souvenir que Dieu vous donne. À vous tous aussi, faisons la fête pour les souvenirs que Dieu nous donne. Toutes les occasions sont une fête de se rappeler de ce que Dieu est pour nous et ce qu'il fait pour nous, de ses bienfaits qu'il nous donne. Comptons, oui, les bienfaits de Dieu. Chantons-lui toujours notre reconnaissance. Et que nos vies soient celles qui continuent à vouloir le connaître, à l'aimer et à le servir. Amen. Amen.